Dom Théo. Dom Théo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Bonjour frère Édouard.
Bonjour frère Philippe.
Nous avons, si je puis dire, déblayé le terrain de cet acte d'amour qui se produit avec le Christ en sa passion, qui nous conduira à sa résurrection. Et nous, ce vocabulaire, hein, je le rappelle, autour des mots rédemption, expiation, propitiation, satisfaction, nous avons essayé de montrer un petit peu des expressions qu'on trouve soit dans l'Écriture, qui peuvent revenir à la liturgie. Par exemple, la dernière, c'était l'agneau qui porte le péché du monde. Peut-être d'ailleurs qu'il y a une... Pour clôturer ça, si je puis dire, il est bon d'attirer l'attention sur le paragraphe 623 dans les, ce qu'on appelle les « en bref » dans le catéchisme. « Par son obéissance aimante au Père jusqu'à la mort de la croix », et c'est une citation de la lettre aux Philippiens, chapitre 2, verset 8, « Par son obéissance aimante au Père jusqu'à la mort de la croix, Jésus accomplit la mission expiatrice du serviteur souffrant, qui justifie les multitudes en s'accablant lui-même de leurs fautes. » Et là, ça fait référence à Isaïe 53, sur ce qu'on appelle le chant du serviteur souffrant.
Oui, il y a là comme un petit résumé, et il est beau de voir le mot « obéissance aimante au Père », donc bien toujours se référer à cet amour de Dieu pour les hommes, et cet amour manifesté en Jésus-Christ, de Jésus pour son Père et pour les hommes comme médiateur, et une médiation qui a voulu assumer donc cette propitiation extraordinaire, de vouloir porter comme serviteur souffrant les péchés du monde, et arrivant par l'aspect infini de ce sacrifice, puisqu'il est Dieu, à justifier les multitudes d'une manière donc définitive, jusqu'à la fin du monde, jusqu'au retour du Christ. Pour nous, c'est affolant de penser que Jésus ait pu assumer ses péchés passés, présents et même futurs de l'ensemble de l'histoire de l'humanité. Et on a vu au cours des différents paragraphes antérieurs que Jésus était cause de notre salut, et il était précisé dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 5, verset 9, qu'il était principe de salut éternel à ceux qui lui obéissent. Donc il y a une porte qui est ouverte dans l'obéissance, sur le modèle de l'obéissance du Christ, pour rejoindre ce sacrifice et pour en bénéficier. Et Jésus a voulu aller jusqu'à la mort. Il ne s'est pas arrêté en cours de route. Dans l'islam, on a l'impression qu'au dernier moment, il y a une espèce de jeu magique où Jésus est remplacé par quelqu'un d'autre au moment de la mort. Bien non, Jésus a voulu être vrai jusqu'au bout. Il est rentré lui-même dans la mort, et il le fait au bénéfice de tout homme. Il a goûté la mort, dit l'Épître aux Hébreux. Et cette mort, c'était le salaire du péché, comme disait saint Paul dans l'Épître aux Romains. Et donc, il a voulu aller jusque dans ses conséquences extrêmes. Adam et Ève ne devaient pas mourir dans les origines, et puis la faute des origines qu'ils ont commises a fait que leur nature n'a plus pu être bénéficiaire de cette grâce qui les maintenait, je dirais, dans un état qui empêchait qu'ils ne meurent. Ils ont retrouvé une nature, je dirais, dans sa faiblesse, et ils ont connu la mort. Eh bien, Jésus a voulu pareillement connaître la mort sur le modèle de l'ancien Adam pour être le nouvel Adam et nous permettre de rejaillir de cette mort. Et la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 3, précise bien qu'il mourait pour nos péchés. C'est-à-dire, c'est pas seulement toute la satisfaction qu'il a vécue par sa passion, par toutes les souffrances, c'est jusque dans la mort que Jésus a voulu le vivre pour que nos péchés soient, je dirais, rejetés et purifiés jusque dans leurs racines. Et aller jusqu'à la mort, c'était aller jusqu'à la séparation de l'âme et du corps, nous dit le numéro 624 du catéchisme de l'Église catholique. On comprend que cette séparation était quelque chose qui ne brisait pas, bien sûr, l'union avec le Verbe de Dieu. L'âme de Jésus est restée unie au Verbe de Dieu, assumée toujours par lui, et même son corps, au sépulcre dans la mort, a lui aussi bénéficié de cette situation d'être toujours, je dirais, uni d'une manière personnelle au Verbe de Dieu. Pour nous, c'est très mystérieux, parce que lorsque nous rencontrons quelqu'un qui est décédé, aussitôt, il y a l'aspect cadavérique qui l'atteint, et on ne peut pas attendre trop longtemps pour enterrer quelqu'un, parce que, comme disait Marthe au Seigneur Jésus à propos de Lazare, il sent déjà au bout de 4 jours, surtout dans les pays, je dirais, d'Orient, où il fait chaud, et très vite, la décomposition cadavérique arrive, et là, non, ça ne pouvait pas atteindre Jésus, puisqu'il était toujours uni à la personne du Verbe, qui est la source de tout l'être, la source de toute vie, et donc ce corps qui était mort, eh bien, ne l'a été que d'une manière transitoire, le temps de manifester que sa mort était réelle. Il est resté 3 jours et 3 nuits, selon les Écritures, au tombeau. En fait, si on compte à partir du jeudi saint, le début du moment où il s'est donné, où il s'est livré jusqu'au dimanche matin, on trouve bien 3 jours et 3 nuits, mais là, évidemment, le temps de, je dirais, scientifique que l'on devrait comptabiliser, c'est à partir du vendredi à 15h où il a expiré, en quelque sorte, jusqu'au dimanche de Pâques. Alors, on ne trouve pas, évidemment, les 3 jours et 3 nuits complets, mais on voit une partie du vendredi, le samedi complet et le dimanche. Donc, on retrouve quand même une prophétie accomplie autour de ces 3 jours. Donc Jésus l'avait dit à l'avance, hein, qu'il ressusciterait le 3e jour. Et il y a dans la vie chrétienne, eh bien, un appel à mieux comprendre ce qu'était ce fameux samedi, ce sens du sabbat qui était déjà donné dans la première alliance, où Dieu s'était reposé de toute son œuvre. Or, l'œuvre de rédemption est une œuvre bien plus grande encore que la création. Et pareillement, il y a comme ce mystérieux repos de Dieu, le repos du Christ, dans le sépulcre, le samedi saint. Grand repos sabbatique de Dieu, est-il dit au numéro 624, eh bien, c'est que Jésus a vraiment voulu vivre le repos dans l'œuvre. Au moment où il était sur la croix, il a dit cette parole extraordinaire, « Tout est accompli », au sens de dire l'œuvre que le Père m'avait donnée à réaliser s'est définitivement scellée. J'ai réalisé l'œuvre que le Père m'avait donnée à accomplir. Tout est accompli. Tetelestai. Et il y a une joie immense, évidemment, dans le cœur du Christ au moment où il dit ça, mais juste après, il expire, il meurt, et il rentre donc dans ce repos sabbatique, comme le Père, avec le Verbe et l'Esprit créateur, avait manifesté ce repos du 7e jour pour montrer qu'il y a une joie après avoir opéré quelque chose, après avoir achevé quelque chose. Il y a comme une sorte de moment de cœur à cœur où on regarde l'œuvre, on la contemple, on se satisfait de la voir. Et bien, d'une certaine manière, ce samedi saint où Jésus est resté au tombeau en attendant la résurrection d'entre les morts est celle qui correspond au grand sabbat du début de l'histoire de l'humanité, quand au septième jour, Dieu se reposa. Et ça donne toute sa signification à ce qui est demandé de ne pas faire des œuvres serviles le dimanche, qui a été la façon de vivre le sabbat chez les chrétiens à cause de la résurrection du Christ. Et bien pareil, il faut contempler l'œuvre de Dieu. Il est recommandé d'étudier la parole de Dieu, par exemple en allant à une liturgie dominicale, aller écouter les textes de la parole de Dieu, s'en imprégner. Cette œuvre sabbatique, cette œuvre de comprendre le dessein d'amour bienveillant de Dieu. C'est finalement ça le sens du sabbat.
Oui, nous qui pouvons entrer dans le sabbat ou dans le grand samedi, le samedi saint, avec tristesse, ou en tout cas, c'est plus, on entre dans un mystère qui finalement est un plein repos dans ce que comme tu l'exprimes, et qui correspond à ce qu'on dit, il n'a pas connu la corruption. Ce samedi n'est pas reconnaître une corruption du Christ, de ce corps du Christ, mais quelque chose est en train de s'opérer dans ce repos.
Oui, il y a quelque chose qui s'opère, et même dans la descente aux enfers qui se passe en même temps avec son âme, il y a une libération déjà qui se réalise. Donc c'est très beau, même avant même la résurrection, les morts sortent déjà de leur état où ils étaient, d'une certaine manière, loin de la lumière. Et donc il y a comme une action doublement, je dirais, satisfaisante pour ce que l'Ancien Testament avait annoncé du repos de Dieu. Eh bien, Dieu se repose dans son œuvre et se repose en libérant les hommes des entraves qu'ils se sont créées à eux-mêmes.
Voilà. Merci, frère Édouard.
À bientôt.